Bonjour et bienvenue à Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs à l'Université Laval, présentée par l'ALIE, votre association des cycles supérieurs. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous faisons une émission spéciale sur l'entrepreneuriat et la recherche au féminin avec un panel complet de doctorantes. Bonjour et bienvenue à Question de savoir ou re-bienvenue dans certains cas. Je vous laisse vous présenter chacune à votre tour.
Bonjour, moi c'est Alison Clémenceau. Je suis étudiante au doctorat au CHUL dans l'équipe des docteurs Francine Durocher et Caroline Diorio. C'est maintenant ma troisième année et je travaille plus spécifiquement sur le cancer du sein. Et à mes heures perdues, je suis professeure de danse. Plus précisément, j'essaye de faire naître un esprit de sororité dans des groupes de filles. Et j'essaye aussi, à mon humble échelle, de réconcilier les femmes avec leur féminité.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Kefelou. Je suis française. Je suis arrivée à Québec en 2015 pour une simple année d'échange. Aujourd'hui, je suis candidate au doctorat au Centre de recherche en infectiologie au CHUL aussi, dans l'équipe du professeur Marc Ouellette. Brièvement, je travaille le jour sur la résistance aux médicaments d'un parasite mortel qui s'appelle Leishmania. Et la nuit, je me consacre à mon projet de start-up, Caligo, avec mon partenaire Jacopo Profili. Caligo, en quelques mots, c'est une spin-off de l'Université Laval qui propose une lentille anti-buée pour les appareils endoscopiques. Parce que oui, le phénomène de buée qui apparaît sur les lunettes lorsque vous entrez dans un bâtiment l'hiver, c'est exactement le même lorsqu'on introduit un appareil dans votre corps.
Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Fatoumata Tunkara. Je suis originaire du Mali. J'ai fait toutes mes études universitaires au Canada. Donc, je suis allée au Canada quand j'avais 17-18 ans. Moi, je viens de terminer mon doctorat. J'ai soutenu en décembre dernier. Mon sujet de thèse était sur le virus du papillome humain, le virus qui donne le cancer du col utérin chez les travailleurs du sexe en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et au Bénin. Et pourquoi nous avons choisi les travailleurs du sexe? Parce qu'elles sont le vecteur de transmission de presque toutes les infections sexuellement transmissibles dans la population générale. Donc, elles sont fortement à risque de ces infections. Mais malheureusement, elles sont aussi une population fortement stigmatisée par la culture, la pression sociale, les normes, qui fait qu'elles ont moins facilement accès aux services de santé. Donc, depuis plusieurs années, nous travaillons avec ces dames-là pour améliorer leur santé sexuelle.
Ben, c'est mon tour. Bonjour à tous. Moi, c'est Linda Marie-Clémence Agot. Je suis étudiante au doctorat à l'Université Laval et au CHUL. Je travaille dans l'équipe du docteur Jean-Philippe Lambert et à mes heures perdues, même si j'en ai pas beaucoup, je suis vice-présidente aux études et à la recherche de l'ALIE.
Excellent. Donc, ce sera notre panel pour aujourd'hui. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet avec une question. On sait que la COVID a eu certainement des impacts sur la recherche au Canada et au Mali aussi, entre autres, et un peu partout dans le monde. J'aimerais savoir, est-ce que la COVID a eu un impact sur vos activités de recherche?
Je peux peut-être commencer. Pour ma part, et je pense que c'est vrai pour l'intégralité de l'étage dans lequel je travaille, à part les trois premiers mois, donc l'année dernière, hein, le temps file, je dirais que le COVID n'a pas vraiment eu d'impact sur nos activités. On a vraiment été capables tous ensemble de s'adapter puis de respecter les règles de distanciation pour pouvoir continuer notre travail. Donc, hormis les trois premiers mois qui nous ont principalement servi à rédiger puisqu'on n'avait plus vraiment le droit d'aller au laboratoire, pour le reste de l'année, je peux pas dire que ça a eu un impact considérable sur mes activités, à moi en tout cas.
Je suis un peu d'accord avec Alison, donc je pense que je vais pouvoir prendre ta suite. L'année dernière, moi, j'aurais répondu non, parce qu'en effet, lors du premier confinement, donc en mars dernier, comme pour Alison, on ne pouvait plus faire d'expérience au laboratoire et on s'était plutôt concentré sur la lecture d'articles scientifiques et l'écriture de notre thèse, qui est en fait un exercice qui fait partie prenante de la thèse. Mais aujourd'hui, la COVID, elle a clairement un impact aussi sur le moral et donc indirectement sur nos activités de recherche. Parce que le doctorat, c'est un marathon qui met nos nerfs et notre patience vraiment à rude épreuve. Et il est beaucoup plus difficile de garder le moral et ses objectifs de thèse sans à côté pouvoir s'évader grâce aux sorties entre amis, cinéma, festival ou tout simplement faire du sport. Puisque j'ai deux casquettes, il y a aussi l'entrepreneuriat. Pour mon projet d'entreprise avec Jacopo, on a réellement commencé les démarches entrepreneuriales en 2020, donc en fait en pleine pandémie. Résultat, toutes nos formations et nos concours se sont faits en ligne, sans possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs autour d'un verre, par exemple.
Quant à moi, je dirais que la COVID aussi a eu un impact personnel et professionnel. Moi, j'avais terminé ma collecte de données quand COVID a commencé. Et un des objectifs de mon projet de doctorat était de faire le typage du virus du papillon humain afin de voir les différentes souches qui circulent en Afrique. Et le plateau technique étant un peu limité ici dans le contexte malien, nous avons décidé d'envoyer nos échantillons à Montréal dans un laboratoire spécialisé pour le typage. Et quand on venait juste de terminer la collecte des données, donc on a envoyé les échantillons, mais COVID avait commencé. Donc du coup, ça a beaucoup traîné parce que le labo était fermé et puis on a dû attendre jusqu'à la fin, à la fin du premier confinement pour que je puisse avoir mes résultats et rédiger mes articles en Catani parce que je suis boursière de FRQS. Et ma bourse arrivait à échéance. Donc, j'ai pu arriver quand même à déposer ma thèse dans un délai raisonnable, mais COVID a eu cet impact-là. L'impact plus personnel, j'ai trouvé ça assez triste après quasiment 5 ans d'études de soutenir ma thèse en virtuel. Je n'avais pas ma famille avec moi. C'était très, très, très triste, je dirais. Mais j'ai pu passer à travers.
Puis, côté soutenance de thèse, juste pour ceux et celles qui sont peut-être pas au courant, comment on procède pour soutenir sa thèse?
Mais c'est ça. Donc, pour soutenir la thèse en virtuel, une fois que la thèse écrite est acceptée, donc on vous envoie un lien Zoom à la candidate ou au candidat et à l'ensemble des membres du jury. Et tu dois être seul dans ton coin. Les membres du jury aussi doivent être seuls dans leur coin. Et tu fais ta défense de thèse en ligne virtuellement. Tu fais ta présentation et on te pose des questions. Et aussi, on nous interdit de prendre des photos, des captures d'écran. Donc, c'est assez triste après 4 ans d'études ou 5 ans pour la plupart des doctorants. Et être obligé de faire ça en virtuel, c'est ça le côté négatif. Mais il y a quand même un côté positif. Le côté positif, c'est qu'il y a moins de stress quand même en soutenant en ligne comme ça, seul devant son écran, versus quand on fait une soutenance publique.
Puis Linda, de ton côté?
Je pense que je vais juste acquiescer tout ce que mes collègues ont dit précédemment. Je pense que pour nous, sur notre étage, comme l'a dit Alison tantôt, à part le confinement qu'on a eu au début, où tout le monde est resté confiné, on n'a pas eu tant d'impact sur nos recherches. Principalement, on n'a pas eu tant d'impact par rapport à la COVID.
D'accord. Puis, j'aimerais vous entendre, cette émission-là est faite spécialement pour la Journée internationale des droits des femmes. Quelle serait la place des femmes dans le milieu de la recherche et de l'entrepreneuriat, puis les défis qu'elles peuvent avoir quand elles se lancent dans ces domaines-là?
Personnellement, si je peux commencer avec cette question, j'ai pas vécu de défi en tant que femme, que ce soit dans le domaine de la recherche ou de l'entrepreneuriat. En fait, concernant la biologie ou le secteur de la santé, la plupart des étudiants sont en réalité des étudiantes. Je pense que les autres panélistes vont peut-être approuver ce point. Je pense que c'est pareil dans tous ces domaines-là. Par contre, sans doute, il y a des discriminations dans d'autres domaines de la science. Par exemple, je serais très intéressée à connaître les statistiques et les témoignages de femmes en mathématiques ou en ingénierie, par exemple.
Moi, je vais enchaîner avec ça parce qu'elle a soulevé un point que je trouve important. C'est vrai que quand on est au Canada, particulièrement dans le domaine de la santé, c'est pas mal féminin à l'heure actuelle. Mais le portrait est vraiment différent. Moi, c'est vrai, quand j'étais, quand je faisais mes cours et tout à l'Université de Laval, je n'ai pas eu de défi particulier en tant que femme parce que souvent, ben, depuis le bac jusqu'au doctorat, on était souvent toutes des filles dans l'équipe et puis c'est juste le patron qui était un monsieur. Mais quand je suis venue au Mali pour ma collecte de données, c'était un autre portrait. Ici, la médecine, tout ce qui touche la médecine, la santé en général, c'est très, très masculin. Et je dirais que oui, on a ce défi-là encore qui est très présent dans ce contexte-là où souvent dans une réunion, tu es la seule femme, il n'y a que des hommes. Et aussi, il y a un contexte culturel qui fait que la femme, elle est toujours vue comme la chose qui doit être soumise, que ce soit professionnellement ou personnellement. Donc moi, j'ai eu ce défi particulier et souvent, ben, c'est difficile d'imposer ses idées quand tu travailles qu'avec des hommes. Même si tu as l'expérience dans le domaine, plus que même d'autres hommes qui sont sur la table, tu es moins écouté parce que tu es une femme. Moi, il m'est arrivé, il y a quelqu'un, par exemple, qui m'avait demandé des données un peu confidentielles. Et quand je lui ai dit, ben, je ne peux pas, la personne m'a carrément dit, Fatoumata, tu es une femme. Une femme doit être quelque chose de gentil, de soumise. Donc, les gens ont quand même encore cette difficulté de dissocier un peu le professionnel et le personnel. Donc, moi, je dirais plus dans le contexte africain, je l'ai vécu, ce défi en tant que femme en sciences.
Moi, de mon côté, je pense que j'ai un avis peut-être un petit peu différent ou complémentaire à celui de Marine. Je travaille aussi... je travaille aussi donc dans le milieu biomédical. Je suis dans un milieu un petit peu privilégié puisqu'en plus je travaille sur le cancer du sein. Donc je travaille dans une équipe quasiment exclusivement féminine avec des directrices féminines et je travaille sur des sujets humains féminins. Donc pour ça j'évolue dans un milieu privilégié, mais quand même, même si j'ai pas subi, si on veut, quoi que ce soit au regard de ma condition de femme. Je pense par contre que l'équité, on n'y est toujours pas. Je pense qu'il manque beaucoup de modèles féminins aux jeunes filles qui vont arriver sur les bancs de l'université. Je pense qu'il n'y a pas assez de chercheurs femmes, il n'y a pas assez de chercheurs femmes subventionnées. Je pense aussi qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de préjugés. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore un article scientifique qui est paru disant que les femmes, en tout cas les étudiantes dirigées par des femmes, par des directrices de recherche féminines, avaient moins de chances de réussir que celles supervisées par des hommes. Donc bon, évidemment, ça m'a scié les deux jambes, mais surtout, je pense que ça témoigne encore de tous les préjugés qu'il y a, de toute la ségrégation qui existe encore dans le milieu de la recherche. Et effectivement, même si on est dans un milieu privilégié ici au Québec, je pense que le chemin est encore long.
Oui, je vais prendre la suite de Alison. Le chemin est encore long, même si j'ai encore cette petite image dans ma tête de ma venue au Québec. Et je viens dans mon centre de recherche et je croise successivement trois chercheuses. Et en plus, on me dit que la directrice de mon programme d'études, c'est une directrice, cette femme, en gros. Donc, oui, même si moi, je travaille dans une équipe qui était majoritairement masculine, une équipe que j'apprécie beaucoup de toute façon, mais je sais que je peux dire que le Québec est quand même logé à une bonne enseigne sur ce coup. C'est la santé, c'est la biologie, c'est la science et c'est féminin au Québec. Mais oui, le chemin est long, le chemin reste à faire. Il reste plein de choses à faire. Et cet article dont j'ai entendu parler aussi bizarrement hier par une collègue, je n'ai même pas eu le courage de le lire pour le moment parce que je ne pense pas que... ça, personnellement, ça ne me fera pas du bien, donc j'évite tout ce qui ne me fait pas du bien.
Donc, on va aller en pause musicale pour entendre Marie-Pierre Arthur avec Pluie de lumière. Puis on va poursuivre la discussion avec ce panel-là, vraiment très, très intéressant de vous entendre, mesdames, sur toutes vos expériences, puis sur tout ce qui peut, sur la recherche au féminin. Puis on va continuer la discussion après cette pause musicale-là. Thank you.
Je lève le toit, tu lèves la tête, je trouve les mots, un puits de lumière, un puits qui éclate.
Bienvenue à Question de savoir. Je suis accompagnée de Dr. Marine Kefelou, Dr. Alison Clémenceau, Dr. Fatoumata Korika Pungara et Dr. Linda Marie Clémence Agbo pour ce panel, comme je vous disais, pour la Journée internationale des femmes. Puis, j'ai une question qui va peut-être susciter du débat parmi nous. Comment peut-on intéresser les jeunes femmes au milieu de la recherche ou de l'entrepreneuriat en 2021?
Moi, je dirais en leur disant, en leur redisant et en leur rappelant qu'elles sont bonnes et qu'elles sont capables. Oui, je pense que ce serait mon message à toutes les petites filles du monde. Les seules limites, mesdemoiselles, que vous avez, c'est celles que vous vous mettez. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable, parce que c'est faux.
Que ce soit pour le milieu de la recherche ou l'entrepreneuriat, les deux milieux, même s'ils peuvent sembler différents, eh bien, ils peuvent intéresser vraiment des profils similaires. Mesdames, si vous êtes curieuses de connaître comment tout fonctionne autour de vous, si vous aimez réfléchir et résoudre des mystères, si vous aimez les défis, si vous souhaitez garder votre autonomie, si vous avez plein d'idées pour résoudre des problèmes du quotidien et d'ailleurs, eh bien, la recherche et l'entrepreneuriat sont peut-être des voies pour vous, sachant que vous pouvez toujours faire vos études dans la recherche et par la suite créer votre entreprise à partir de vos travaux s'il y a une opportunité.
Moi, je dirais que ceci doit commencer en bas âge. C'est-à-dire, comme Alison avait déjà souligné, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de dire, même nous en tant que femmes, à nos petites filles, comme si elles doivent toujours jouer à la poupée, elles ne doivent pas avoir d'autres curiosités. Donc, je pense que c'est depuis là que ça commence. Si la petite fille, elle veut faire autre chose que jouer aux poupées, laissez-la faire, laissez-la développer des curiosités, parce que c'est de là que tout passe. Où on dit à la petite, non, ça, c'est pas pour un jeu de petite fille, ça, c'est pour un jeu de petit garçon. De là, déjà, on fait la dissociation entre filles et garçons, nous-mêmes, des fois, en tant que mère ou la société, qui fait que les jeunes filles sont de moins en moins intéressées par la science. Et moi, je dirais à toutes les jeunes filles, foncez. Quand vous voulez découvrir plus de choses, foncez. Et je dirais, je suis fière de moi-même, je suis la preuve vivante de ça. Moi, j'ai fait mon doctorat en tant que femme monoparentale avec une petite fille. Je l'ai fait dans un contexte quand même un peu, dans une autre culture un peu différente de la mienne, mais j'ai réussi. Donc, je me dis, si je peux faire quelque chose, toutes les filles peuvent faire la même chose. Donc, n'hésitez pas, foncez. Et je dis à toutes les mamans, encouragez vos filles, n'écoutez pas la pression sociale. Foncez si elles veulent faire de la science, encouragez-les dès un bas âge.
Je vais venir renchérir sur tous ces beaux messages. Oui, et il faudrait un déconditionnement dès le bas âge de ces petites filles-là. Il faudrait leur montrer qu'elles sont vraiment capables de faire tout ce qu'elles veulent faire. Vouloir, c'est pouvoir, comme on le dit. Mais il faudrait aussi que la société soit prête pour ça. Il faudrait aussi que la société leur donne l'espace qu'il faut, que la société leur donne la possibilité d'avancer et ne soit pas un frein pour tout ce qu'elles voudront soit faire en recherche ou en entrepreneuriat. Pourquoi je dis ça? Parce que en tant que doctorante, c'est sûr qu'on veut, pour la plupart, on veut tous continuer. Je sais que les femmes n'aiment pas qu'on leur demande leur âge. Mais à partir d'un certain âge, on réfléchit aussi à fonder une famille. Et ça devient un frein pour notre poursuite dans la recherche. Et même, je dirais, je ne suis pas entrepreneur, moi, par contre, mais certainement dans certains domaines de l'entrepreneuriat. J'imagine juste que une femme qui voudrait se lancer toute seule dans l'entrepreneuriat ou qui veut peut-être faire financer son entreprise par des banques en fonction de son âge, aura peut-être des défis parce que la banque va se dire « oui, mais elle a tel âge, elle commence, peut-être que bientôt elle va se prendre un congé maternité parce qu'elle va vouloir fonder une famille ». Et c'est la même chose en recherche. Un professeur qui va devoir t'accepter au doctorat ou en post-doctorat va peut-être justement, juste en regardant ton âge, même s'il ne te pose pas la question, réfléchir dans sa tête à calculer « ok, je la prends peut-être pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans de post-doc ». Si c'est 2 ans, est-ce qu'elle va pas vouloir fonder une famille dedans? Est-ce que je ne vais pas perdre, du coup, des années? Donc, oui, il faudrait un déconditionnement de la petite fille, mais il faudrait aussi qu'elle puisse avoir la possibilité, donc, grâce à la société et grâce aux manières de voir de tout ce qui l'entoure et de toutes les personnes qui l'entourent, qu'elle puisse aussi, justement, évoluer correctement.
Puis je pense que ça l'a... ça me fait un excellent segment pour ma dernière question parce qu'on manque de temps. Quel est l'impact des remarques sexistes pour vous en tant que femme? Par exemple, on parlait du « Ah, je ne peux pas prendre cette femme-là pour un postdoc, qu'elle va peut-être vouloir se créer une famille », quelque chose comme ça. Est-ce que vous en avez vécu de ces situations-là? Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour vous dans votre vie?
Pour ma part, je ne l'ai jamais vécu directement adressé à moi, mais plusieurs fois de manière très insidieuse, dirigée envers quelqu'un d'autre. Je pense que ça a un énorme impact sur la confiance qu'on peut avoir en nous, parce que effectivement, voir ce genre de comportement, entendre ce genre de paroles, ça nous conditionne aussi peut-être à ce à quoi on va être confronté dans notre avenir. Donc, je pense qu'il faut complètement enrayer ça. Puis, je m'adresse à toutes les femmes de ce monde. Par pitié, on a déjà des difficultés. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sororité. Encouragez-vous les unes les autres. J'ai déjà entendu des commentaires sexistes de la part de femmes. Par pitié, on a déjà assez d'ennuis comme ça. Si on pouvait se serrer les coudes, je vous rappelle qu'on est plus de la moitié de la planète. Si on se serre les coudes, il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de nos envies. Donc oui, je commencerai aussi par sensibiliser hommes et femmes au fait que le sexisme, ça existe toujours. Et voilà, serrons-nous les coudes. C'est vraiment le message que j'ai.
Je suis totalement d'accord avec Alison, une fois de plus. Serrons-nous les coudes parce que si on imagine la planète comme un bateau, si on tangue toutes d'un côté, le bateau, il va tanguer. C'est à nous de faire bouger les choses. Il faudrait qu'on se le dise, on fait plus de la moitié de la planète. Donc, on est majoritaire. Si on était dans un Sénat, on vote pour une loi, elle va passer. Il n'y aura pas le choix. Donc oui, moi personnellement, je n'ai pas eu de remarques venant de l'autre sexe, si je peux le dire comme ça, directement. Mais oui, comme Alison l'a dit, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, quand je voulais commencer par exemple mon doctorat, mais c'est quand même 4 ans, est-ce que tu penses à fonder une famille, etc. Ce qui me fait réfléchir, ce qui me stresse des fois quand je pense à la fin de mon doctorat bientôt et qui me fait me demander... Est-ce que je vais directement rentrer dans le monde professionnel ou est-ce que je me permets de me prendre encore un post-doctorat d'un an, 2 ans? C'est des questions et des réalités du monde qui font qu'on stresse encore plus. Parce que, justement, on ne peut pas avoir la liberté intellectuelle de réfléchir et de prendre une décision sans pour autant se dire « et si, et si, et si ». Donc, serrons-nous les coudes, chère madame, en ce 8 mars. Serrons-nous vraiment les coudes et puis espérons que d'ici là, tout sera meilleur.
Mais quant à moi, moi quand même, je l'ai personnellement vécu quand j'ai commencé ma thèse, où une de mes amies compatriotes qui me disait « Mais Fatoumata, je ne comprends pas pourquoi tu veux faire une thèse. Une femme n'a pas besoin de doctorat. Tu as juste besoin d'avoir un diplôme et de travailler. » Et moi, je dis à ce monsieur-là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que j'ai les mêmes intelligences que toi, je suis capable de le faire. Donc moi, je l'ai vécu personnellement. Comme les deux autres disaient tantôt, je pense qu'il faut que nous, en tant que femmes, qu'on se serre les coudes et qu'on s'encourage les unes les autres parce que on a quand même du chemin à faire. Le chemin est encore très long. Et en se serrant les coudes, je pense qu'on va y arriver.
Je crois qu'on ne pourrait pas finir mieux Question de savoir pour le 8 mars. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à cette émission-là. Un petit rappel pour ceux et celles qui le veulent, la journée de la recherche approche à grands pas, ce sera le 25 mars. On a sorti la programmation la semaine dernière et vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir dans cette journée. Vous avez jusqu'au 10 mars, donc jusqu'à demain, pour nous donner votre appel à la communication. On le rappelle, le sujet de cette année, c'est l'expertise scientifique du GES, donc tout ce qui est communication, vulgarisation scientifique. Vous êtes les bienvenus, peu importe votre domaine d'études et votre champ d'expérience. Aussi, participez à notre Assemblée générale le 10 mars, donc demain, et aussi les élections se poursuivent. Votre candidature pour le comité exécutif est attendue pour le 12 mars. Merci beaucoup à toutes et à toutes et une bonne fin de journée à l'écoute de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.